Il est 19h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de Radio France Internationale, 18h30 à Bamako et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Nathalie Amar.
Et oui, c'est Afrique Soir, une demi-heure dédiée à l'info africaine. Tout de suite, c'est le journal avec Aurore Delabrosse. Bonsoir Aurore.
Bonsoir. Le dialogue inter-Burundi a été officiellement relancé en Ouganda. Le médiateur a fixé au 6 janvier à Arusha une nouvelle rencontre. La campagne électorale s'achève ce soir en Centrafrique. Dernier jour de meeting ce lundi. À Bangui, l'archevêque Zapalenga et l'imam Layama ont de nouveau organisé une marche de réconciliation. En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières suspend ses activités dans le territoire du Massissi, au Nord Kivu. Décision prise en raison de l'insécurité. L'ancien otage Thierry Doll va porter plainte contre l'État français et la société Areva pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Enfin, les divorces sont en baisse en Afrique subsaharienne. C'est la conclusion d'une étude menée au Canada.
RFI. Dans un quart d'heure, avec l'invité d'Afrique Soir, il sera question de Djibouti. Retour sur les violences de la semaine dernière, à quelques mois de la présidentielle. Nous serons en ligne avec Dimitri Verdonck. Renouer le dialogue au Burundi, le pays traverse une grave crise politique. Aujourd'hui, la médiation burundaise a été officiellement relancée à Entebbe.
Une timide reprise de dialogue en présence de 13 partis, des représentants du gouvernement burundais, de la société civile et de l'opposition. Il ne s'agit que d'un préalable à la relance formelle des négociations. Finalement, il a été difficile de réunir tout le monde. Le médiateur a fixé la date du 6 janvier pour une prochaine rencontre à Arusha. Retour sur cette journée avec Charlotte Cosset.
La société civile et les représentants de l'opposition ont été les premiers à prendre place. C'est plus d'une heure et demie plus tard, après un long suspense, que les représentants du gouvernement ont rejoint la salle. Assis en ligne, face à face et en chien de faïence, que les deux camps se sont regardés. Et c'est dans une atmosphère donc tendue que le président Museveni a fait son entrée. Une entrée tardive, dans sa traditionnelle chemise jaune et son chapeau vissé sur la tête. Il a appelé les partis à ne pas exiger de conditionnalité pour permettre au dialogue d'avancer. Mais lors du passage à la tribune, les attaques se sont succédées. Le Sénat raide, étant dénoncé comme comprenant dans ses rangs des putschistes, le pouvoir étant lui incriminé par l'opposition d'exécution extrajudiciaire. Rendez-vous a ensuite été donné à Arusha pour le 6 janvier prochain. Une annonce qui a très vite fait réagir le gouvernement burundais, qui a dénoncé le non-consensus à propos de ce nouveau rendez-vous dans un communiqué. Il y regrette aussi que le Sénat raide, qui n'est pas reconnu par la loi burundaise, ait été invité à parler. L'opposition s'est-elle réjouie d'un rendez-vous prochain et espère qu'il y sera défini un calendrier précis ainsi qu'une orientation pour les discussions. La journée de lancement officiellement terminée, c'est à l'hôtel que les belligérants se sont retrouvés. L'occasion de discuter de manière moins formelle. Charlotte Cosset, Kampala, RFI.
Et comment réagit-on au Burundi à cette relance du dialogue inter-burundais ? À Bujumbura, Sonia Rollet.
À Bujumbura, ces jours-ci, les habitants fuient le micro. On ne peut pas parler politique, c'est trop dangereux. Voilà la première des réactions. Mais surtout, la plupart des citoyens, y compris en fin de journée, n'étaient toujours pas au courant des conclusions de Kampala. Au mieux, certains avaient retenu la date du 6 janvier donnée par la médiation à l'issue du dialogue. Il faut dire que seule la radio nationale émet aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Les radios privées les plus suivies sont toujours interdites, détruites même depuis la tentative de putsch manquée, accusée d'avoir collaboré. Mais vous avez quelle information? C'est en général la question suivante. Qui a parlé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà pour le centre-ville. Dans les quartiers périphériques, certains ignoraient même que le dialogue avait repris. Et quand on leur explique que le gouvernement rejette la date du 6 janvier et certains des participants, ah bon, mais pourquoi? Le dialogue est la meilleure des options, dit l'un. Il faut que ça continue et que ça aille vite, explique l'autre. Certains murmurent encore, le président Nkurunziza veut gouverner seul, il n'aime pas les négociations. D'autres clament qu'on ne peut pas discuter avec tout le monde. Un citoyen un peu plus informé se réjouit toutefois que les gens se soient retrouvés pour discuter, même si la situation n'est pas bonne, il y a de la civilité, se réjouit-il. Que les gens viennent avec des conditions, c'est normal, mais personne ne rejette le dialogue, c'est le plus important, conclut-il. Sonia Rollet, Bujumbura, RFI.
En Centrafrique, dernier jour de meeting pour les candidats à la présidentielle et aux législatives.
Oui, la campagne se termine à minuit. Le vote aura lieu mercredi après un nouveau report de 3 jours, dû notamment au délai d'acheminement des bulletins de vote dans les zones reculées et à l'impression tardive des cartes électorales. Et c'est dans ce contexte que s'est tenue une nouvelle marche pour la réconciliation aujourd'hui. Marche menée par l'archevêque Dieudonné Zapalenga et l'imam Layama. C'est ce qu'ils appellent une caravane pour la paix. Cette fois, le but était de permettre aux musulmans du PK5 d'enterrer leurs morts dans un cimetière situé situé à plusieurs kilomètres de là, dans le quartier Boeing, à Bangui. Le reportage de Pierre Pinto.
C'est un attelage hétéroclite qui avait été convié à cette nouvelle marche visant à permettre aux musulmans d'accéder à un de leurs cimetières situés dans le quartier Boeing, de l'autre côté de l'aéroport. Derrière l'archevêque de Bangui et l'imam Kobin Layama, une quarantaine d'habitants, mais aussi un ancien premier ministre, une miss, un ex-porte-parole des anti-Balaka et le président du comité d'autodéfense du PK5, Mohamed Ali Fadoul.
Le tombeau de mon père, c'est ici. Je ne peux pas venir. Ça fait plus de 2 ans que je ne suis pas venu ici. On a entendu l'autre jour, il y a des gens qui disaient qu'on a construit des maisons dans le cimetière, alors que c'est faux. Il n'y a aucune maison ici. Il n'y a que des herbes.
Le cimetière a été laissé à l'abandon. Depuis plus de 2 ans, les musulmans du PK5 enterrent souvent leurs morts dans des arrière-cours ou parfois dans des paroisses. Monseigneur Dieudonné Nzapalenga.
La première opération que nous allons faire sera de nettoyer tout le cimetière. Et les jeunes sont coopératifs. On va leur donner quelques moyens financiers pour qu'ils puissent nettoyer tout ici. Et ça sera la première opération. La deuxième opération sera maintenant de s'entendre ensemble pour laisser nos frères musulmans venir enterrer librement, dignement, ici, tous ceux qui nous ont quittés.
Reste quelques détails à régler. Combien de temps pour réhabiliter ce cimetière? Et surtout, désormais, une question. Les musulmans pourront-ils réellement venir jusqu'ici, à plusieurs kilomètres du PK5, pour se recueillir et enterrer leurs morts? Le chef local des anti-Balaka a donné sa parole. Pierre Pinto, Boris Vichit, Bangui, RFI.
RFI à Brazzaville. 93.2 FM.
Bientôt 19h37 à Brazzaville et à Kinshasa, la République démocratique du Congo, où l'insécurité a contraint Médecins sans frontières à suspendre ses activités médicales et humanitaires la semaine dernière à Mouesso, dans le territoire du Massissi, au Nord Kivu.
À la mi-décembre, 2 employés de l'ONG ont été kidnappés avant d'être relâchés. Ce n'est pas la première fois que MSF est la cible d'attaques, mais celle-ci est la plus grave de l'année, dénonce Anne-Marie Lauf, la responsable des opérations de Médecins sans frontières à Amsterdam. Des garanties sécuritaires et la restitution du matériel volé seront exigées pour assurer le retour de l'ONG dans la zone. Anne-Marie Lauf.
MSF a suspendu toutes ses activités médicales et humanitaires à Mouesso depuis le 23 décembre. Et cette suspension a eu lieu suite à un grave incident sécuritaire. Le 15 décembre, un convoi de MSF circulant entre Kichanga et Mouesso a été arrêté puis braqué. Et 2 employés MSF ont été enlevés puis libérés le 16 décembre. La suspension des activités de MSF à Mouesso a un impact énorme pour la population. Les 10 premiers mois de cette année, on a eu plus de 185 000 consultations externes, plus de 8 000 hospitalisations et presque 6 000 accouchements au sein de notre projet de MSF à Mouesso. C'est une catastrophe pour la population s'il n'y a plus d'appui de MSF pour des soins de santé dans la zone.
Anne-Marie Lauf, responsable des opérations de MSF à Amsterdam, propos recueillis par Sabrina Mir.
Au Tchad, un député de l'opposition agressé hier soir à N'Djamena.
Djimet Clément Bagaou, député de l'opposition et porte-parole du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, a été agressé hier soir en rentrant à son domicile. Il explique avoir été pris à partie par des membres de la garde présidentielle. Il est au micro d'Amaury Auchard.
Il y a 19h30, je revenais de dehors, et juste non loin de chez moi, je trouve les éléments de la garde présidentielle qui m'ont intercepté. Après avoir donné mon identité, on me dit que non, toi tu es un député de l'opposition, obligé de sortir de mon véhicule. Quand je suis sorti du véhicule, il a fouillé, et à la fin, il dit, si tu ne détiens pas des armes, qui autre détenir des armes? Avec des injures et autres. Moi, j'ai gardé mon calme pour ne pas tomber dans le piège. Je pense que ma vie est menacée parce que, d'abord, les propos, on me taxe de vouloir créer un soulèvement. Avant, c'était pas des intimidations verbales. Aujourd'hui, on passe à un acte plus physique. C'est le moi. Et dans un désespoir par rapport aux élections qui se pointent en 2016, il cherche à m'écarter de la course en créant un incident. Donc, je dis comment on s'en prend à moi.
Propos recueillis par Amaury Auchard. Un double attentat suicide aurait fait une trentaine de morts dans le nord-est du Nigeria ce matin. Deux femmes kamikazes se sont fait exploser sur un marché de la ville de Madagali. Information confirmée par le chef militaire de l'État d'Adamawa. Les soupçons se portent vers le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Par ailleurs, le dernier bilan de l'attaque survenue hier soir dans une mosquée des faubourgs de Maïdougouri est de 21 morts et 91 blessés.
Vous nous le disiez en titre, Aurore Thirido, l'ancien otage enlevé par Acmi sur le site minier d'Arlit au Niger, a décidé de porter plainte.
Oui, il veut porter plainte contre l'État français et la société Areva pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Thirido, libéré en octobre 2013 avec trois autres compagnons de captivité, il veut connaître, dit-il, la vérité sur ses conditions d'enlèvement et de libération. Les explications de Sylvie Coffi.
Thierry Doll, c'est l'un des visages des quatre otages que la France entière avait découverts sur le tarmac de l'aéroport à Villacoublay. Silhouette élancée, lunettes noires, il avait l'air serein, voire même protecteur, aux côtés de ses ex-compagnons de captivité. Il souriait, un sourire qui masquait en fait toute sa colère. Je me disais, souligne l'ancien otage, qu'ils avaient beau jeu de nous mettre ainsi en scène après nous avoir abandonnés. Abandonnés alors que l'entreprise semblait connaître les risques sur le terrain. C'est ce sentiment vivace qui anime cet homme âgé de 34 ans. Que savait l'entreprise Areva? Quels étaient les risques qu'elle a fait prendre à ses salariés? En 2010, pendant l'été, l'entreprise reçoit une note inquiétante incitant les salariés à davantage de prudence. Thierry Doll est persuadé à ce moment-là qu'Areva va les évacuer de la zone, mais rien n'est fait. Aujourd'hui, Thierry Doll, qui a tout perdu, veut comprendre pourquoi, selon lui, il a été abandonné par son employeur et par l'État français pendant 3 ans. J'ai besoin, dit-il, de connaître la vérité pour me reconstruire.
Sylvie Coffi. Au Niger, verdict attendu le 11 janvier sur la liberté provisoire d'Ama Amadou. Déclaration de son avocat qui a plaidé son dossier aujourd'hui devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel. L'opposant et candidat à la présidentielle, Ama Amadou, est emprisonné depuis plus de 6 semaines depuis son retour au pays. Il est poursuivi pour complicité dans une affaire de trafic présumé de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger, mais il dénonce un dossier politique visant à l'écarter de l'élection présidentielle prévue en février 2016. Au Niger toujours, Ibrahim Yacouba sera le candidat du parti MPN, le mouvement patriotique de nigérien, pour l'élection présidentielle de février 2016. Cet ex-membre du cabinet du président nigérian a été investi par le parti qu'il a lui-même créé début novembre. Outre M. Yacouba, 8 autres personnalités, dont l'actuel président Issoufou et l'ex-président du Parlement, Ama Amadou, se sont lancés dans la course. Et l'Organisation internationale de la francophonie doit par ailleurs entamer mardi le contrôle du fichier électoral.
Avant de refermer cette édition, cette info qui concerne les divorces, ils sont en baisse en Afrique subsaharienne.
C'est la conclusion d'une étude menée au Canada par 2 chercheuses de l'université McGill. Une étude menée dans 20 pays africains au cours des 20 dernières années, alors que les niveaux d'éducation, d'emploi et de revenus sont à la hausse chez les femmes de la région. De nombreux observateurs ont émis l'hypothèse selon laquelle les taux de divorce suivraient la même tendance, comme cela a été le cas en Europe ou en Amérique du Nord, une tendance qui ne s'applique pas donc à l'Afrique subsaharienne. Laetitia Bezin.
Du Sénégal au Libéria en passant par le Togo et le Bénin, dans la moitié des pays étudiés, le divorce est en déclin. Alors comment expliquer cette tendance au moment où les femmes sont de plus en plus autonomes en Afrique subsaharienne, emploi et revenus en hausse, des facteurs généralement associés à des taux plus élevés de divorce? Eh bien ces facteurs sont compensés par l'augmentation de l'âge lors du premier mariage. Les femmes se marient moins jeunes. Dans les pays africains où les femmes s'engagent dans une relation lorsqu'elles sont plus matures, les mariages sont généralement plus stable, précise l'une des auteurs de l'étude. Autre explication avancée, la hausse du niveau d'éducation des femmes dans la région a aussi tendance à favoriser des unions plus solides. L'étude réalisée au niveau national permet aussi de rendre compte des disparités selon les pays. C'est au Bénin, au Ghana et au Niger que le taux de divorce a le plus diminué ces 20 dernières années. Un taux de divorce qui reste stable néanmoins au Burkina Faso, au Cameroun ou encore au Kenya.
C'est la fin de ce journal RFI à Paris, 19h44. Vous êtes avec Nathalie Amar pour la suite d'RFI Soir.
Merci, c'était le journal d'Aurore Delabrosse. À suivre, dans 5 minutes, toute l'actualité sportive en Afrique. Nous serons en compagnie d'Olivier Pron. À 19h57, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. Avec Marie Casadebé, il était question ce matin du Congo-Brazza, où le président veut avancer au premier trimestre 2016 la tenue de la présidentielle. Tout de suite, c'est l'invité d'Afrique Soir. Et on revient ce soir sur les violences qui se sont produites la semaine dernière à Djibouti, dans la ville de Balbala, où une cérémonie religieuse du clan Yanis Moussa devait être organisée. Des centres de police au siège de la principale coalition d'opposition, l'USN, et aujourd'hui encore, des bilans qui divergent. 29 morts au moins selon l'opposition. Le pouvoir s'en tient, lui, à 7 victimes. Tout cela à quelques mois de la présidentielle prévue en avril. Bonsoir Dimitri Verdonck.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, spécialiste de Djibouti, président de l'association Culture et Progrès. Le pouvoir et l'opposition se rejettent. La responsabilité de ces violences, y voit-on plus clair aujourd'hui?
Ça peine à y voir plus clair, mais vous savez, à Djibouti, le problème est toujours le même, c'est-à-dire qu'obtenir des informations objectives est extrêmement difficile, parce qu'on a d'un côté la propagande très bouclée du régime, et de l'autre, une forme de propagande également de l'opposition qui a tendance à exagérer. Maintenant, je parle avec beaucoup de gens, des gens de la société civile, de la Ligue des droits de l'homme, bien sûr, mais alors aussi des gens du régime, entre guillemets, donc des gens, des fonctionnaires qui dépendent du pouvoir, mais qui sont par ailleurs assez objectifs. Et d'après ce que je reçois moi comme information, on est autour d'une bonne vingtaine de morts et de très très nombreux blessés.
Depuis quelques mois déjà, les associations de défense des droits de l'homme parlent d'une répression accrue. Est-ce que l'attaque contre le siège de l'opposition peut être un pas de plus d'après vous?
Oui, c'est vrai, les opposants se plaignent depuis plusieurs mois et même déjà depuis plusieurs années de vagues successives de répression. Le dialogue entre l'opposition et le régime a beaucoup de mal à s'instaurer. L'année dernière, à cette période, un accord a été signé entre le régime et l'opposition, mais jusqu'à présent, ça n'a rien donné.
Que prévoyait cet accord et pour quelles raisons n'a-t-il pas été suivi d'effet d'après vous?
Bon, il y avait toute une série de points assez techniques, mais alors il y avait des points très politiques, comme par exemple la constitution d'une CENI, une commission nationale indépendante, dans la perspective des élections d'avril 2016. Il y avait aussi la réintégration des opposants au sein du Parlement. Donc de leur côté, les opposants ont accepté de rejoindre le Parlement. Du côté du régime, pour l'instant, on n'a encore fait aucune proposition concrète pour la mise en place d'une CENI. C'est ça évidemment qui pose problème maintenant, parce qu'il reste trop peu de temps pour mettre en place une CENI crédible. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut préparer quelque chose comme ça. Ça met plusieurs mois. Et donc, l'opposition se rend bien compte que les élections d'avril se dérouleront, selon eux, dans des conditions non satisfaisantes de transparence, de démocratie, de respect des droits humains, etc.
Le pouvoir du président Ismaël Omar Guelleh n'a donné aucun gage de sa bonne volonté en termes de transparence de ce scrutin.
Des promesses jusqu'à présent, des promesses, mais rien de concret, suffisamment concret aux yeux des opposants.
Ces violences de lundi dernier sont survenues à l'occasion d'une cérémonie religieuse. Quel est le poids dans le jeu politique djiboutien des logiques de clans et des logiques ethniques?
Il est important, mais il ne faut pas non plus la surestimer. C'est-à-dire que c'est vrai que chaque représentant politique du régime ou de l'opposition appartient à une ethnie, mais de plus en plus on voit une opposition unie, une opposition qui arrive à sortir de ces dynamiques claniques ou ethniques. Peut-être ici, elle a une importance particulière, puisque l'ethnie qui a été visée est effectivement l'ethnie d'Abdourahmane Boré, le milliardaire djiboutien qui était le bras droit du président.
C'est le clan Yanis Moussa?
Oui, c'est ça, c'est le clan Yanis Moussa. Le régime présente la situation comme une volonté d'Abdourahmane Boré de manipuler, d'instrumentaliser les membres de sa communauté pour mettre le pays à feu et à sang. Alors ça, je pense que c'est une vision assez fantaisiste de la réalité. Il est tout à fait vrai que quelqu'un comme Abdourahmane Boré a intérêt à essayer d'exister sur le terrain, parce que il a toujours été le bras droit du président. C'est quelqu'un, si vous voulez, il a aucune présence sur le terrain à Djibouti. Quand il était le bras droit du président, c'est quelqu'un qui n'était pas très aimé. Il refusait les syndicats. Enfin, il se comportait de manière très discutable avec les travailleurs, etc. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas une grande crédibilité politique. Si on cherche des explications, si on cherche quels sont les hommes forts Sur le plan politique, ça n'est certainement pas Abdourahmane Barré. Daher Ahmed Farah est quelqu'un de beaucoup plus important. Depuis son retour à Djibouti, il a une influence considérable sur le déroulement de l'actualité. C'est à lui qu'on doit la création de l'USN. C'est quelqu'un qui a des réseaux à l'extérieur du pays, au sein de l'Union européenne, aux États-Unis. Il y a Ali de Berkaley qui est aussi quelqu'un qui a fait un travail considérable auprès de l'Union européenne. Voilà, des gens comme ça, ce sont des hommes forts sur le plan politique. D'ailleurs, Ali de Berkaley a annoncé récemment qu'il allait s'exprimer publiquement à la rentrée, ben je pense que c'est intéressant d'écouter des gens comme ceux-là.
Ce qui s'est passé la semaine dernière annonce-t-il, d'après vous, forcément des tensions dans les mois qui nous séparent de cette élection présidentielle du mois d'avril ?
Oui, évidemment, le risque de l'escalade est tout à fait réel, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que la population djiboutienne et l'opposition djiboutienne de manière générale a toujours été très pacifique. Et donc, je pense qu'il y a encore tout à fait moyen de dialoguer. Simplement, il faudrait un tout petit peu de bonne volonté de la part du régime qui, pour l'instant, manifestement, se braque.
La réaction de l'Union européenne a été extrêmement timide. Est-ce qu'il faut y voir tout simplement le résultat de la forte présence militaire occidentale à Djibouti et l'importance de sa position stratégique ?
Je trouve qu'elle n'est pas si timide que ça. C'est-à-dire que moi, je me réjouis davantage du fait que, d'abord, il y ait une réaction. Ça n'a pas toujours été le cas. On peut espérer beaucoup mieux. Mais moi, je me souviens, par exemple, qu'en 2010, Catherine Ashton, qui était à l'époque la représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, se réjouissait de la modification constitutionnelle qui entérinait la possibilité pour le président actuel de se représenter un nombre indéfini de fois. Bon, on peut constater là qu'il y a une évolution notable dans la réaction de la communauté internationale. Et je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, les Européens, les Américains risquent de se montrer de plus en plus explicites dans leurs appels au régime et en particulier au président Guélé à respecter davantage les droits de l'homme. C'est vrai, évidemment, qu'un des grands problèmes de Djibouti, c'est la présence sur place de la communauté internationale parce que elle a jusqu'à présent toujours privilégié ses propres intérêts et négligé les intérêts de la population djiboutienne.
Merci beaucoup, Dimitri Verdonck, d'avoir été en ligne.
Merci à vous.
Il est 19h51, les sports, toute l'actualité africaine, c'est à présent avec Olivier Pron. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Actualité sportive d'entre deux fêtes assez calme, il faut le dire. Heureusement, le foot en Angleterre ne fait pas relâche.
Et oui, 19e journée de Premier League débutée ce lundi. Les grosses affiches sont en cours, notamment Arsenal qui est opposé à Bournemouth, le 14e. En cas de succès, les Gunners prendraient la tête aux dépens de Leicester qui accueillera Manchester City demain. Après un quart d'heure de jeu en seconde période, eh bien c'est plutôt pas mal parti pour ces joueurs d'Arsenal. 1-0, c'est le score. Un but de Gabriel Paulista inscrit juste avant la pause. Deuxième mi-temps en cours également dans une confrontation entre deux équipes qui vont mal. Manchester United, 6e, mais qui reste sur 4 défaites de rang, reçoit Chelsea, 15e, et son nouvel entraîneur, Gus Hiddink, pour l'heure 0-0 entre les deux équipes. Parmi les résultats du jour, sachez que Tottenham a arraché en toute fin de partie la victoire face à Watford 2-1. Les Spurs sont 3e à une longueur d'Arsenal, à 3 de Leicester. Enfin, à noter le succès important dans la lutte pour le maintien de Norwich. 2-0 face à Aston Villa. Deuxième but signé du Congolais Dieumerci Mbokani.
Un autre joueur de RDC, lui, n'a pas pu jouer ce lundi, Olivier.
Yannick Bolasier, il n'a pas participé à la rencontre de son équipe Crystal Palace face à Swansea. 0-0 au final. L'ailier, auteur de 4 buts en 16 matchs cette saison, s'est blessé à la jambe juste avant la rencontre de samedi face à Bournemouth. Il pourrait être absent un mois.
La première ligue que pourrait rejoindre prochainement l'Égyptien Mohamed El-Neni.
Arsenal est sur les rangs, Nathalie, et les discussions sont en cours, a confirmé Arsène Wenger, le manager des Gunners, qui font face à une série de blessures dans l'entrejeu. Coquelin et Cazorla sont out. Le pharaon de 23 ans est une cible privilégiée. Il évolue actuellement au FC Bâle en Suisse et son transfert coûterait environ 7 à 8 millions d'euros au club londonien, à condition qu'El-Neni obtienne son visa de travail. Arsenal qui va recevoir la visite du jeune espoir nigérian Victor Osimhen, le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde des moins de 17 ans, 10 buts et le titre à l'arrivée, évolue toujours à Lagos pour les Ultimate Strikers, mais alors qu'il fête ce mardi ses 17 ans, il en revient de Wolfsburg en Allemagne où il est allé visiter les installations et a rencontré les dirigeants du club de Bundesliga. Il devrait faire la même chose donc chez les Gunners, même s'il estime qu'il n'y a pour l'instant aucune urgence à quitter son pays, d'autant qu'il devra attendre ses 18 ans pour le faire. De toute façon, Osimhen faisait partie des moins de 23 ans nigérians, champion d'Afrique il y a 3 semaines et qualifié donc pour les Jeux de Rio.
Allez, on termine cette saison avec la rétrospective du jour.
Oui, le coup d'œil dans le rétro de l'année 2015 nous emmène ce lundi en Éthiopie, où l'athlétisme, comme de coutume, et le cyclisme, ça c'est plutôt une nouveauté, ont été à l'honneur cette année. Depuis Addis Abeba, Karim Lebourg.
Des hauts plateaux d'Éthiopie, on retiendra cette année la performance de Genzebe Dibaba, sacrée athlète féminine de l'année par la Fédération internationale d'athlétisme. L'Éthiopienne a dépoussiéré cet été à Monaco le record du monde du 1500 mètres, un record vieux de 22 ans en 3 minutes 50 secondes 07. Autre champion qui a marqué l'année 2015 en Éthiopie, c'est Zgabou Guéréme, le premier cycliste éthiopien sur le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. 2015, une année faste pour le cyclisme dans la Corne de l'Afrique, avec deux coureurs de l'Érythrée voisine sur le Tour de France. Merawi Kudus et Daniel Teklemanot sont les deux premiers coureurs d'Afrique noire à avoir participé au Tour de France. Enfin, en 2015, un grand champion éthiopien tire sa révérence, Elegebre Selassie. À 42 ans, le coureur de fond a participé le mois dernier à sa dernière course officielle. C'était la Great Ethiopian Run à Addis Abeba. Elegebre Selassie a enlevé ses chaussures sur le dernier kilomètre pour terminer sa carrière comme il l'avait commencé, pieds nus sur les routes d'Éthiopie. Karim Lebourg, Addis Abeba, RFI.
Et voilà donc pour cette rétro sportive de l'Éthiopie dans le journal d'Olivier Pron. Dans la dernière édition, Olivier, il sera question de l'Afrique du Sud.
De l'Afrique du Sud, effectivement, avec des choses gaies et moins gaies.
Rendez-vous aux alentours de 22h45, temps universel. Vous restez bien entendu avec nous à l'écoute d'RFI. On va marquer une pause et puis vous retrouverez Marie Casadebé pour les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. À 20h, le journal de Nicolas Feldman. 20h10, décryptage. Nous serons ce soir en Pologne. À tout de suite.
Découvrez le nouveau site RFI Afrique, votre lien permanent avec l'actualité du continent.
RFI Afrique, c'est un accès en temps réel, 24h sur 24, à toute l'actualité politique, sociale, économique et culturelle de votre région. Sur RFI Afrique, retrouvez également notre sélection des titres de l'actu africaine, les infos par pays, et écoutez RFI en direct et à la carte à tout moment.
RFI Afrique, c'est dès maintenant sur votre mobile, votre tablette et votre ordinateur, sur afrique.rfi.fr.
7 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Smartphone, tablette, télé, peut-on encore passer une soirée en famille sans écran ?
Mercredi.
La gastronomie africaine dans les capitales du monde, ses recettes peuvent-elles s'exporter ?
Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à partir de 10h10 TU.
RFI.
Vous écoutez RFI et vous souhaitez nouer des liens plus forts avec votre radio ? Rejoignez la communauté MaRFI sur marfi.rfi.fr.
Créez votre profil pour partager vos idées, vos talents et vos initiatives avec la radio du monde. Les meilleures contributions seront sélectionnées pour passer à l'antenne. De plus, chaque semaine, MaRFI vous propose de nouvelles vidéos de coulisses et des entretiens exclusifs avec vos journalistes préférés.
marfi.rfi.fr, votre radio encore plus proche.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Au Congo-Brazzaville, le président Sassou Nguesso souhaite avancer les élections au premier trimestre 2016. Une façon, selon lui, de consacrer l'instauration de la nouvelle constitution. Autre annonce, la création d'une commission électorale nationale indépendante. Alors comment interprétez-vous ces décisions ? C'était ce matin sur RFI.
Vous savez que le président nous a habitués chaque fois de nous surprendre dans ce genre de discours. Et pour moi, c'est un président de facto qui a perdu le pédale, qui va dans tous les sens. Parce qu'en 3 mois, tenez bien qu'on ne peut pas organiser une élection libre, transparente et crédible comme le veut la communauté nationale et internationale.
C'est un bouffon d'oxygène pour les Congolais. Parce qu'on avait constaté, comme s'il y avait un vide, le pays ne fonctionnait quasiment plus. Parce qu'il a promulgué la nouvelle constitution. Il devrait avoir un premier ministre. Il devrait avoir un nouveau parlement. Toutes ces choses-là ne sont pas encore mises en place. Donc il fallait anticiper les élections pour mettre tout cela en place, pour que le pays avance.
Bon, d'après moi, il se trouve là qu'on est en face simplement d'une machination de M. Sassou Nguesso de tourner assez vite la page d'un référendum qui a été très critiqué, mais lequel référendum, par ailleurs, lui a donné la voie libre
à une pérennité du pouvoir. Et quand il promet qu'il y aura une nouvelle CENI qui garantirait bien sûr des élections crédibles, on ne va pas se leurrer là-dessus. D'autant plus que les CENI, les commissions électorales, dans nos pays en Afrique, elles sont plus instrumentalisées qu'indépendantes. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que le peuple congolais a adopté par référendum une nouvelle constitution. Et quel est l'acte qui peut consacrer l'avènement d'une nouvelle constitution? Je pense que c'est l'institution président de la République. Et le président de la République, je pense qu'il a eu raison de ramener les élections, d'autant plus que la symbolique majeure dans une république, c'est à travers le président de la République.
Demain, dites-nous ce que vous attendez de Rochmar Christian Caboret, quelles doivent être ses priorités. Le tout nouveau président du Burkina Faso prête serment ce mardi.
RFI, la sélection du mois.
Dainabi. Elida Almeida.
Paminense cabe, chintiro por e canção, mas tapilão richou demais.
RFI.